J'ai pas la... Je vous laisse gérer les diapos, hein, d'accord ? Voilà, ce matin, c'est le thème « Être une église prophétique ». Et nous avons vu, pendant notre rencontre communautaire du mois de juin, début juin, une partie de l'ADN du Colombier, c'est d'être une église qui laisse une place au prophétisme. Une école de prophètes. Quelqu'un nous a dit, je vois ici, dans cette église, l'installation d'une école de prophètes. L'expression vient des Écritures. Alors, si vous pouvez passer, hein. Y a plusieurs livres qui en parlent. J'ai mis 1 Samuel, chapitre 19, le verset 20. Saül, le roi, envoya des émissaires pour prendre David ou pour capturer David. Ils virent un groupe de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. On voit une autre école de prophètes dans Deux Rois. Élisée revint à Gilgal alors qu'il y avait une famine dans le pays. Comme les membres de la communauté ou de l'école de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets la marmite, etc. Il semble que l'école de prophètes n'était pas seulement une école pour apprendre à entendre Dieu et à retransmettre ce qu'il dit, mais que c'était une école où l'on apprenait à vivre les choses spirituelles et j'allais dire humaines avec Samuel, avec le prophète Élie, avec le prophète Élisée. C'était comme une école de disciples. Il n'est pas impossible que cette école de prophètes ait vu le jour parce que pour contrebalancer le poids spirituel des des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Souvenez-vous que Élie, le souverain sacrificateur, avait des fils et que ses fils faisaient n'importe quoi, n'importe comment, et non seulement ils faisaient n'importe quoi, n'importe comment, mais ils s'imposaient. Et donc, il n'est pas impossible que l'école de prophètes et que les prophètes venaient pour contrebalancer la puissance, l'autorité qu'avaient mis en place les souverains sacrificateurs. Donc, il y a eu des écoles, des personnes suivaient ces écoles-là. Il semble que ces écoles aient perduré. Parce qu'on voit par exemple, on voit des prophètes, vous avez déjà entendu ou lu les textes bibliques qui parlaient de faux prophètes. C'était des personnes qui probablement étaient dans une école de prophètes et qui s'instituaient prophètes ou qui étaient choisis comme prophètes par le pouvoir politique qui, ces prophètes-là... le pouvoir politique les prenait avec eux pour qu'ils aillent dans leur sens. C'est pour ça qu'il y a des conflits. Étienne, notre fils, qui a fait un séminaire sur le prophétisme au mois d'août de l'an dernier, nous parlait entre autres de Jérémie, et, qui était en conflit avec un autre gars qui se disait prophète. Avec qui ça coinçait durement parce que Ben, parce que Jérémie était un prophète, mais l'autre n'y était pas, et bref, c'était compliqué. Les disciples, donc, dans cette école, étaient enseignés probablement de la bonne manière de vivre avec le Seigneur. Vous savez, comme ça, combien de personnes il y avait dans l'école d'Élysée ? Comme ça, il y avait 100 personnes. Ouais, hein, c'est étonnant. Hein, 100 personnes et encore, à un moment donné, ils ont dû agrandir parce que c'était trop petit. Et il y a des prophètes qui ont dit, mais c'est trop petit, viens, viens, Élysée, on va couper du bois et puis on va agrandir. Et c'est en voulant couper du bois que le fer de hache est tombé dans l'eau. Enfin bref, vous connaissez peut-être l'histoire ou le récit. Si vous ne connaissez pas, ben allez lire. Et on voit, alors plus avec Élysée d'ailleurs, parce que c'est pareil, il y en a un qui prépare une soupe et puis tout le monde est malade. Et enfin bref, Élysée exerce son ministère, pas seulement d'entendre le Seigneur, mais aussi de faire des choses. Alors, Élysée avait un ministère prophétique et de miracles assez particulier, on va dire. Géasi, serviteur d'Élysée, était dans cette école et ça n'a pas fait de lui un prophète. Ce que je veux relever là, c'est juste une parenthèse, c'est que c'est pas parce qu'on va dans une école... On est prophète. Je dis pour ceux qui ne savent pas, mais à un moment donné de mon ministère, j'ai été responsable d'une quarantaine d'églises en France. Et j'ai pris le ministère, je suis allé dans une église, rencontrer le pasteur et... Je lui ai dit, viens, on va boire une bière. Donc on a été boire une bière et je lui ai dit, comme ça, relax, écoute, tu es pasteur mais tu n'as pas le ministère. Et il me dit, mais moi j'ai fait 4 ans de théologie. Y a plusieurs personnes qui ont prié pour moi lors de ma consécration, dont deux présidents de notre fédération. Et moi, de lui dire, désolé, c'est pas parce qu'on a prié pour toi et que tu as fait de l'école de théologie que tu as le ministère pastoral. Tu n'es pas à ta place. Je comprends que ce soit un peu compliqué à avaler. Hein. Personne n'osait lui dire. Alors, moi, j'ose, quoi. Et je lui ai dit, écoute, on va se poser, on va réfléchir, on va prier pour voir quel est le service et le ministère auquel le Seigneur t'appelle, et puis on va voir comment gérer ça, et puis comment te remplacer ici. 2 mois après, j'ai appris qu'il avait quitté l'église sans rien dire à personne. Il avait parti de l'autre côté de la France. Pas dit. La preuve qu'il n'était pas pasteur. On ne laisse pas tomber comme ça, pas seulement une église, mais des gens, parce que l'église, ce sont des gens. Quoi. Donc on peut, c'est juste une parenthèse, hein, pour dire qu'on peut avoir de la bonne volonté, on peut avoir, je vois des personnes qui ont le titre de pasteur, mais qui n'en ont pas le ministère. En fait, ce qui est casse-pied, c'est que quand on a envie. On a envie d'un ministère, on rêve un ministère. Et Alors, je ne sais pas pourquoi. Je vous prie de croire que j'ai jamais voulu être pasteur, moi. Hein. Ça s'est fait comme ça, quoi. Bref. Je le suis, je pense, parce que le Seigneur a voulu que je le sois. Alors oui, il faut se former. Oui. Mais il faut laisser à l'Esprit Saint le choix de désigner lui-même les ministères. C'est juste ça, quoi. On ne peut pas... Mais je dirais... Allez, je fais une parenthèse. Encore une fois, mais... Ce souci de... Par exemple, de vouloir être pasteur, parce que dans notre communauté, j'en ai vu plein, des personnes vouloir être pasteur. Alors, je sais pas pourquoi, mais je dirais simplement, parfois c'est de la faute, je m'excuse du terme, parfois c'est de la faute des chrétiens qui idéalisent trop le pasteur, qui mettent le pasteur sur un piédestal. Alors que il y a aucune raison, quoi. Je suis un frère, ben comme vous, quoi. Juste avec un appel sur ma vie. Mais s'il n'y avait pas l'appel, ben il y aurait la pioche. Pardon. On idéalise de trop, me semble-t-il. On fait « Ah, mais le pasteur, forcément, il est plus dans la présence du Seigneur. Lui, il n'a pas de problème. Lui, il peut me comprendre. » Ça, soyons plus simples. Moi, je suis un frère, voilà, comme quelqu'un d'autre. J'ai besoin, jour après jour, de la grâce de Dieu, et je ne suis pas plus spirituel qu'aucun d'entre vous. Donc, faut juste le savoir, le dire. Et c'est pour ça que je dis, ne mettez jamais des pasteurs sur un piédestal. Alors, je comprends bien, hein, les amis africains, là, souvent, on vous dit, ah, pasteur! Moi, appelez-moi Bernard, ça me va, quoi. Hein, ça me va. Si vous voulez pas m'appeler Bernard, appelez-moi Monseigneur. Donc voilà, c'est juste de recentrer un peu les choses. Ceux qui sont appelés au service, quel que soit le ministère, ne sont pas plus grands que n'importe qui, parce que nous sommes des pierres vivantes, chacun, et le Saint-Esprit nous met à une place les uns et les autres pour l'édification de son corps. Bon, bref, c'était juste une introduction. Une école de prophètes, dans quel but? Ma compréhension aujourd'hui, qui peut changer, hein, mais aujourd'hui, ma compréhension de l'école de prophètes, je voudrais vous donner 4 pistes. 1. Un prophète nous a dit: il y a des actions particulières qui vont jaillir de votre structure, de votre église. Cette église va influencer réellement la région, tant sur le plan social que politique. C'est comme si tous ces piliers de la société vont être touchés dans cette saison. Et je vois une ouverture, vous avez une zone d'influence en tant qu'église. Des hommes et des femmes de tout temps, j'allais dire des chrétiens, ont influencé la société. L'abbé Pierre. Quelle œuvre, hein ? Si on pense à sœur Emmanuelle ou sœur Teresa, voilà, merci. Quelles œuvres et elles, voilà, ça bouscule. Quand je pense à, je l'ai noté, Baden Powell, vous connaissez ? C'est lui qui a mis en place le scoutisme. Henri Dunant, Croix-Rouge, premier prix, le premier à recevoir le prix Nobel de la paix. Martin Luther King, forcément. C'est incroyable parce que Martin Luther King, il y a aux États-Unis un jour de congé en son honneur. Je trouve que c'est fort, quoi. Quelle influence. Plus près de nous, on devait le recevoir l'an dernier. J'étais encore en communication avec son frère cette semaine, avec le frère de Denis Mukwege. Mukwege. Ouais, comme tu dis. Le médecin, c'est le réparateur des femmes. Voilà. Donc il devait venir à Angers. Ouais, au mois de mai. Mais Covid oblige, ça. Voilà. Mais on espère toujours pouvoir le faire venir. Là, je suis allé. Son frère avec qui je suis en contact me dit « Ah, mais tu te rappelles, on a été au Canada ensemble. » Et donc, ça nous a rapprochés un peu. Plus près de chez nous, lorsque le maire de l'époque, le maire d'Angers de l'époque, est venu remettre la médaille du mérite à Tantivonne, c'est pour ça qu'on a espace Tantivonne, il a dit « Tante Yvonne, vous êtes précurseur du Sami social. » Parce que, avant tout le monde, elle était dehors avec son petit chariot pour donner des boissons, des cafés, des trucs aux SDF. Lorsque nous avons fondé Croque étudiant pour pourvoir à leurs besoins alimentaires, mais pas que, ben, on était quelque part des précurseurs. Je vous disais en passant comme ça, lorsque le Seigneur nous a saisis, Daniel et moi, pour que l'on accueille un détenu qui était en train de mourir du sida, on a demandé à la justice, à ce qu'il vienne mourir chez nous à la maison, qu'il soit libéré par anticipation. Depuis, ça a donné une loi qui permet à tous les détenus en fin de vie de pouvoir sortir avant qu'ils ne meurent. Ma prière, c'est, Seigneur, donne-nous de vivre encore du prophétisme dans ce sens-là, quoi. Que l'Église... pas seulement la nôtre, pas seulement nous, mais que l'Église puisse, si c'est la nôtre, laissons-nous faire par le Seigneur pour que ça vienne, mais que l'on puisse avoir une parole dans notre ville qui soit forte, qui soit, j'allais dire, déterminante. Cette Église va influencer. Ben oui, moi, Seigneur, moi, je te demande d'influencer la société pour qu'il en soit ainsi. Mais n'influence pas seulement la société, influence les frères et les sœurs qui composent la communauté parce que c'est de nous qu'il s'agit. Il veut se saisir de toi pour que tu influences la société dans laquelle tu te trouves. Ne laisse pas au pasteur l'inspiration, parce que c'est une inspiration des uns et des autres. Il faut apprendre à démocratiser les dons que le Seigneur donne aux uns et aux autres. Et l'influence prophétique, nous devons la rechercher, en tout cas la demander, et avoir un cœur prêt à faire ce qu'il dit, faire venir un détenu qui avait le sida, alors qu'on n'était pas, on ne savait pas s'il fallait désinfecter les couteaux, etc. Les gens nous traitaient de parents indignes parce que c'était un braqueur de banque, hein, s'il était en prison, c'était pas un enfant de cœur. Et les gens nous disaient, vous êtes des mauvais parents, etc. Les journalistes venaient pour nous piéger. C'est dérangeant. C'est plus simple que de rester dans son fauteuil et à regarder la télé, hein. Mais si tu veux influencer, alors forcément ça va, forcément il faut que tu te lèves et que tu sois disposé et disponible. L'autre slide. Il n'y a aucune stratégie personnelle dans ce que je viens de dire, poussé par l'orgueil. Il n'y a que des actions animées par l'amour, et le Seigneur nous dit, le Seigneur te dit, cherchez l'amour, cherchez la compassion avec désintérêt, parce que l'amour est le moteur de cette école prophétique. Je vous le redis ou vous avez compris ? Cherchez l'amour, cherchez la compassion avec désintérêt. L'amour est ou doit être le moteur de cette école prophétique. Le deuxième point que je voudrais aborder sur l'école prophétique, c'est une autre parole que nous avons entendue d'un prophète. Dieu appelle cette église à devenir porte-parole, à devenir plus prophétique dans ce qu'elle choisit de vivre, dans ce qu'elle reçoit et qu'elle ne garde pas pour elle-même, mais qu'elle partage avec les autres, de ce qui se passe dans le ciel, de ce que Dieu veut faire, une dimension plus prophétique. Le prophétique, disait-il, c'est d'entendre Dieu et puis de dire ou d'agir selon ce que Dieu a dit et finalement de réaliser sa parole sur la terre. C'est ce à quoi cette église est appelée. Et quelqu'un d'autre a confirmé, quand quelqu'un arrive dans cette église, Dieu peut lui parler. Ouf ! Ça, c'est pareil, hein, c'est engageant. On ne va pas dire, ouais, nous, on vit le prophétisme. Pour vivre le prophétisme, il faut avoir les yeux, les oreilles ouvertes pour recevoir et pour apporter. Là encore, en toute humilité, pour les personnes qui viennent ici, mais pas que. Le Saint-Esprit veut que nous nous mettions probablement à nouveau en route dans le domaine prophétique, qui a quelque peu été pendant un temps mis sous le boisseau, on va dire, pour des raisons très diverses. Et j'entends parfois, par fatalisme, « Ah, ben moi, j'ai pas reçu le don. » Et des fois, je me demande si c'est une question seulement de don ou si c'est pas une question de décision. Tu veux changer ? Voilà. Désirer, c'est une action, hein. Désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Un peu plus loin, 1 Corinthiens 14, 12. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur, les dons de l'Esprit, recherchez à être riches, surtout de ceux qui font progresser l'Église. Encore une fois, ce n'est pas un don pour soi, c'est un don pour les autres. Dans Ésaïe, chapitre 50, verset 4, le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire pour que je sache avec quel mot je soutiendrai celui qui est faible. Waouh ! Chaque matin, il me réveille et il me réapprend. J'aime bien cette version-là parce qu'il me réapprend à écouter comme doivent écouter les disciples. Enfin, dans Nombre, chapitre 11, verset 29, Moïse qui dit « Es-tu jaloux de moi que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes ?» Ce que je voudrais juste dire dans ce deuxième point, c'est que le prophétisme, ce n'est pas pour des spécialistes, c'est pour le peuple de Dieu. Alors certains, vous pouvez écouter le séminaire d'Étienne du mois d'août de l'an dernier, on ne va pas le refaire, mais il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Il y a des différences dans les prophètes, parce qu'on a reçu ici des prophètes qui étaient particulièrement une, qui était spécialiste, on va dire ça comme ça, des territoires. Elle savait dire ce que le Seigneur voulait faire dans telle ou telle ville, que d'autres avaient plus un ministère pour dire aux personnes, toi tu vas... fonder telle entreprise ou telle autre entreprise. Et voilà, il y a de la diversité aussi dans les dons, dans les ministères prophétiques. Il faut que je sache avec quel mot je vais soutenir ce qui faiblit. On va avancer. Il me semble que le Seigneur nous dit ou nous ordonne à notre communauté, donc à nous tous, reçois de moi pour transmettre. Reçois de moi pour transmettre. Nous avions une... une ancienne musulmane au milieu de nous pendant un temps. Elle est repartie dans le nord de la France. Elle était en train de faire son repas, midi, quand le Seigneur lui dit, tu vas prendre le tram. Seigneur, je suis en train de préparer la cuisine. Et donc, elle, au bout d'un moment, elle se laisse faire, elle prend le tram. Elle voit une personne, peut-être que tu veux que je parle à telle personne. Donc elle va, elle essaye d'engager la conversation, c'était pas possible. Et puis une autre, et puis à un moment donné, elle s'en va voir une dame qui était, elle dit, waouh, c'était pas mon style, c'était une dame très, très classe. Je vais discuter avec elle. Et puis c'était vers elle que le Seigneur voulait, parce qu'elle allait se suicider. Punaise, si elle n'avait pas écouté, continue ma cuisine. Alors en même temps, c'est super, et en même temps, on a un peu la trouille. Hein. On a un peu la trouille. Et si je me trompe, je me rappelle moi d'un de mes directeurs d'école qui m'a viré, mais enfin c'est pas grave. il nous disait, un jour je suis rentré, poussé par le Saint-Esprit, je suis rentré dans une quincaillerie. Il y avait un client qui était devant moi, ça m'arrangeait bien. Et puis finalement, quand c'était mon tour, ben, j'ai acheté une bricole parce que je savais pas ce que je faisais là, quoi. Il a fallu qu'il apprenne. Faut apprendre. À écouter et à recevoir. Un jour, quand j'étais, j'avais peut-être 17 ans, on priait pour un jeune allemand de 16 ans, et j'ai prophétisé, il va guérir. Et 3 jours après, il était mort. Ouh, j'ai dit, Seigneur, plus jamais je veux. Et mon pasteur m'a pris et m'a enseigné. Pas facile. Mais faut avoir le courage. Voilà, ça, je vous dis ça. J'ai dû apprendre à écouter, à discerner, à reconnaître la voix du Seigneur. Il nous reviendra peut-être de proposer des ateliers pour entendre, pour prophétiser. Dire pour prophétiser. Alors on va essayer en petit groupe avant d'essayer dans la rue. Oh Seigneur, tant que c'est dans l'église, ça va. Mais dans la rue ou au supermarché, ben non. Et si vous saviez, je ne vous raconte pas d'expérience parce que j'ai pas le temps. Mais un troisième point, troisième parole d'un prophète, mois de mars de cette année. Le Seigneur m'a dit que cette église est une église très prophétique. Alors c'est prophétique, hein, mais et qu'il a placé sur vous, en tant que peuple et de certaines personnes, un appel prophétique. J'ai le sentiment que vous avez au milieu de nous, de vous, des gens prophétiques, voire des prophètes, et j'ai vu dans ce lieu une école de prophètes être établie. C'est pour ça que je parle d'une école de prophètes. Pour lever des prophètes qui sont établis dans la parole et qui sont émotionnellement sains, dans le sens où il y a eu assez ou suffisamment de guérison pour avancer, des gens qui marchent dans l'intégrité et dans la crédibilité. Et donc plus tard, dans la discussion, il disait que l'école de prophètes s'est enseigné un style de vie, pas seulement une école pour écouter Dieu et devenir prophète. Comme dit tout à l'heure, l'école de prophètes avait probablement aussi comme but un style de vie agréable à Dieu. Nous devons être raisonnables. Je crois que je l'ai mis. Si tu veux passer, voilà, nous... parce que je trouve que c'est important. Nous devons être raisonnables et ne pas vouloir vivre le prophétique en ayant une vie personnelle ou communautaire qui serait faire déshonneur au Seigneur. Ça vaut pas la peine de chercher à être prophète si notre vie n'est pas celle qu'il faut, quoi. Parce que c'est un contre-témoignage. Et pour faire court, ce style de vie, c'est Galates 5, 22, on connaît le fruit de l'esprit. Je crois que je l'ai noté. Voici ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur et la maîtrise de soi. Soyons déjà prophètes. dans ce domaine, en couple, en famille, en église, au travail, avec nos amis. Ayons déjà un style de vie qui honore le Seigneur au travers du fruit de l'Esprit de Galates 5, 22. Enfin, le quatrième point, j'ai l'impression qu'il y a un éveil prophétique qui va grandissant chez vous. Un éveil prophétique grandissant. Je me rappelle plus la version que j'ai choisie, mais 1 Corinthiens 14:1 dit « Cherchez l'amour, montrez du zèle quant aux expériences spirituelles. » Ah ! Ces derniers mois, ces dernières semaines, le Seigneur nous invite, nous incite à rechercher, à aspirer, à avoir du zèle, à vivre des expériences spirituelles. Récemment, Daniel nous a enseigné sur un terme qui est si important que le Seigneur dit à l'apôtre Jean, monte ici, monte ici. Fabien, il y a 15 jours, 3 semaines, un mois, j'en sais rien, enfin bref, il y a récemment, nous a parlé aussi de surnaturel. Depuis des semaines, je me penche sur un verset un peu énigmatique. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. On passe à côté, mais c'est un verset qui nous dit que des prophètes ont reçu des choses de la part de Dieu. Ils ont transmis, à travers de l'Écriture, mais se sont pas contentés juste de recevoir et de transmettre. Ils ont recherché de quoi il pouvait s'agir. Ils ont essayé de... Ils ont enquêté, si je peux employer ce terme-là. Ils ont essayé de faire une enquête ou des enquêtes pour savoir de quoi l'Esprit était en train de parler. C'était pas juste je reçois et je donne, mais je suis aussi curieux parce que je veux savoir, parce que je veux vivre, parce que je veux sonder ce qui est en train de me dire. Monte ici. Va en esprit dans le ciel. Il m'arrive de vous partager des expériences en tant qu'intercesseur ou de mes prises de scène en amoureux avec Jésus. Cherchez l'amour, on a vu tout à l'heure. Montrez du zèle. Montrez du zèle quant aux expériences spirituelles. Sans amour pour Jésus, on pourrait s'égarer dans le mysticisme. Chercher à voir des anges juste pour voir des anges, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. Si on cherche les anges pour voir comment ils sont décorés, ça ne sert à rien. Je suis allé dans une église, Je suis allé dire au pasteur, tu vois pas, mais sur l'estrade, devant l'estrade, là, il y avait plusieurs anges qui étaient en train de danser. Hein, je vois rien. Oui, tu vois rien, mais je te le dis. Quand nous avons intercédé pour un frère chrétien au Maroc qui était persécuté, on était tous debout à intercéder, et tout d'un coup, ici, là, sur l'estrade, 200 anges qui étaient là, casqués, armés. Et quand je suis rentré, j'ai écrit ça au frère en disant, écoute, voilà ce qui s'est passé au culte ce dimanche. Et il dit, mais c'est l'heure exacte à laquelle je demandais au Seigneur d'envoyer des anges. Je ne les ai pas comptés, 200. C'était là, c'est... Lorsque nous faisons de la délivrance, nous chassons des démons, des fois c'est costaud, puis là c'est pas si simple que ça. Mais en même temps, on n'en a pas peur. C'est pas... Nous ne sommes pas des chasseurs de démons, j'allais dire, voilà, on va pas les rechercher. Mais quand... Pour ne parler d'une jeune fille qui était chez nous, là, la première fois que je l'ai vue, elle me disait, pourquoi vous avez les cheveux violets ? C'était pas si violet que ça, quoi. C'est peut-être une idée, tu vois. Et donc, quand elle est venue le dimanche et que ça s'est manifesté, qu'il a fallu l'emmener... dans le bureau et que alors qu'on louait le Seigneur, on l'entendait hurler, eh ben toute l'église s'est levée pour que cette jeune femme soit délivrée, et elle a été délivrée. Mais c'est une confrontation avec les démons, et souvent je dis aux gens, mais comment vous ne pouvez ne pas croire à des choses spirituelles? Moi je les vois et je les vis. Je rentre en conflit avec des démons, les obligeant à partir, à quitter. Alors que ce soit dans le domaine de la délivrance démoniaque, ou que ce soit dans le domaine de, j'allais dire, de voir des anges, c'est pas pour la gloriole. En parlant d'anges, tiens, que sont les anges ? Dans Hébreux, chapitre 1, verset 14, ce sont des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Les anges sont là pour nous donner un coup de main. Donc à nous de vivre avec leur service, leur partenariat, pas pour être mystique, et tout simplement parce que le Seigneur les met à notre disposition, à notre service, pour nous aider. Pas seulement nous aider, nous, dans notre vie de tous les jours, parce que ce n'est pas eux qui font la vaisselle, mais nous aider dans le ministère. Il n'y a pas de frontière entre le ciel et la terre. Souvenez-vous l'échelle de Jacob, où des anges montaient et descendaient. D'ailleurs, c'est toujours un peu étonnant. Comment ça se fait que les anges y montent, alors qu'en principe, on pense qu'ils devaient d'abord descendre avant de monter. Mais c'est qu'il y en avait déjà sur terre. Il y en avait déjà qui étaient là avec Jacob. Jacob ne voyait pas, mais il y avait avec lui des anges. Et à un moment donné, il a eu le songe des anges qui montent et qui descendent. Aujourd'hui, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, nous avons la liberté, ou un libre accès, pour entrer, mais dans le lieu très saint. Mais c'est marqué aujourd'hui. C'est pas marqué quand on est mort. C'est aujourd'hui. Alors, le défi qui est devant nous, c'est comment apprendre ensemble à vivre des expériences spirituelles. Comment, en tant que pasteur, je peux vous enseigner à voir des anges ou à chasser des démons. C'est un peu ça l'idée. Quand je dis pasteur, il n'y a pas que moi dans l'Église. Mais comment l'Église peut former à des expériences spirituelles ou à des expériences spirituelles par des temps d'enseignement, de formation, d'école prophétique, d'expérience. Peut-être faudra-t-il arriver de temps à autre à avoir des temps de culte où personne n'a rien préparé, quoi. Ça fout un peu la trouille, parce que j'aime quand même qu'il y ait au moins un peu quelque chose, quoi. Et d'arriver là, à tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? C'est ça, mais c'est... Voilà, donc on ne sait pas, mais... Bref, le Seigneur nous encourage à apprendre à vivre des expériences spirituelles. Ici, d'abord, avant de les vivre à l'extérieur. Quand on va dans les rues, quand on va au supermarché... Quand on rencontre quelqu'un, on devrait pouvoir recevoir de la part du Seigneur ses indications pour les apporter aux autres. Et lorsque il m'arrive de vivre cela, les gens me disent « Mais comment vous savez ?» Je reçois de la part du Seigneur ce qui vous concerne. Si vous voulez, je vais prier pour vous et puis je prie. Je ne suis pas meilleur. J'ai juste appris et je souhaite être plus disposé et disponible. Je désire mieux entendre et mieux voir. Je souhaite voir ce qui se passe dans les cieux. Et quand je parle d'expérience spirituelle, par exemple, d'intercession, littéralement, je me vois habillé avec une robe d'avocat et je suis devant l'Éternel et je prie en faveur des personnes. Mais je me vois, le petit col blanc et la robe, et j'intercède devant Dieu, le Père, prenant un témoin, Jésus. Et demandant à ce que l'Esprit Saint agisse et intervienne. En esprit, je monte dans les cieux pour que mon intercession puisse être efficace. Pour pouvoir entendre éventuellement ce que le Seigneur me dit par rapport à la personne, à la situation, ou ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ou faut pas faire. Bref, je vais conclure. Je vais conclure par la prière. Seigneur, tu nous appelles en tant que personne et en tant que communauté à être de plus en plus prophétique. Que ce soit dans ou par l'exercice des dons spirituels, mais aussi des actions sociales et autres dans la société. Avec humilité, nous te prions pour que tu nous aides à entrer dans ces expériences spirituelles, conduites par le Saint-Esprit et non la chair. Nous souhaitons les vivre, Seigneur, par amour pour toi et par compassion pour l'humanité.